Get the brands you love at littlewoods.com. Cozy up this autumn for family movie nights. Get the Samsung 43-inch Ultra HD 4K smart TV with HDR for an unmissable $429. All with inclusive delivery and free returns. Hurry, offer ends Thursday the 24th of October. Own it at littlewoods.com.
Vous écoutez RMC.
Simone, est-ce que l'Italie va arriver à l'Euro en roulant un peu les mécaniques, genre on est les Italiens, ou en mode un peu modeste?
À l'intérieur du groupe, et ce que dit Roberto Mancini, c'est plutôt modeste. Le travail à faire est long, on doit encore voir comment on en arrive. Il faut pas oublier d'où on a notre dernière déception. En vrai, il y a un certain côté d'enthousiasme. Je vois dans les médias, dans les présidents de la Fédé, je vois qu'il y a, on s'emballe un peu. La vérité, c'est que l'Italie, jusqu'à hier, parce que la victoire, c'était bien, la qualification est arrivée, mais les matchs, c'était pas extraordinaire. Mais jusqu'à hier, l'Italie avait toujours joué bien depuis un an. Depuis un match nul face à l'Ukraine qui avait lancé un peu ce nouveau système avec beaucoup de possessions et un jeu plutôt plaisant. Et il y a une idée de dire si l'Italie arrive à l'Euro et si les joueurs clés sont là, et je pense surtout derrière, au-delà de Chiellini, il faut que les deux latéraux soient des latéraux qui puissent apporter quelque chose. Et l'absence de Palmieri, pour moi, en ce moment, est très, très grande parce que Spinazzola à gauche, D'Ambrosio à droite, il y a Florenzi blessé, Deschiglio blessé, on a un peu de soucis. Mais si les joueurs clés sont là, on a l'impression que l'Italie peut bien faire. Il y a un seul gros problème pour moi pour cette sélection, c'est le numéro 9. On a deux numéros 9 qui sont Immobile et Belotti qui jouent dans leur club avec une 3-5-2 ou qui, c'est une équipe qui n'ont pas beaucoup de possessions, sont des joueurs qui doivent plutôt faire des appels dans des contres et on se retrouve dans un jeu de possessions où l'avant-centre doit être un peu plus efficace dans la surface et très performant et capitaliser bien avec un autre type de mouvement pour moi. Et Immobile n'arrive pas vraiment à s'imposer. On rappelle 8 buts ce début de saison avec la Lazio. Hier, il a presque rien fait. Oui, une occasion, mais c'était vraiment hors du jeu. Et Belotti, qui est un cran derrière à Immobile dans la hiérarchie de Mancini, et qui, on se demande s'il a les épaules pour être le numéro 9 de la sélection. Pour moi, mais je suis sûr que dans la tête de Mancini, c'est pas mon idée, je sais que dans la tête de Mancini, il faut attendre la fin de la saison pour voir si Mario Balotelli a fait bien avec Brescia. Et s'il a fait bien avec Brescia, ça veut dire 13-14 buts, il sera titulaire à l'Euro.
Va falloir qu'il commence la saison, non?
Il avait 4 matchs de suspension.
Ce qui est fou, c'est que cet espoir puisse encore exister.
Mais
vu le passé,
les matériels que tu as. Tu as Belotti, Immobile, Moise Kean, un peu disparu à Everton. Et les scénarios, c'est ça, je te fais des noms, Pavoletti, Inglese. Mais je suis convaincu que ce ne sont même pas connus. Un joue à Cagliari, l'autre joue à Parme. Pavoletti s'est blessé, s'est fait les genoux et va rentrer en avril. Mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière Immobile et Belotti, sauf Balotelli. Et Balotelli, c'est quoi? Un espoir total, totalement un espoir, parce que tu dois rêver qu'il est dans la bonne situation, dans les bons moments. Et sur
je trouve que ce serait envoyer un message un peu brouillé. C'est-à-dire que, ok, t'as les deux autres que t'as cités, c'est vrai que c'est pas le top du top, mais t'imagines que Balotelli mette 10 buts cette année, et tu te dis c'est notre seul espoir, tu le fais entrer au dernier moment, il faut qu'il s'intègre à l'équipe, et t'envoies Belotti sur le banc. Moi je continuerai de tenter Belotti et j'insisterai avec lui.
Peut-être. Pour moi, il n'y a rien de mieux à niveau de qualité. Que Mario Balotelli à la poste numéro 9.
Mais ces qualités, elles n'existent plus, Simone, c'est du virtuel. C'est des qualités qui n'existent plus concrètement.
Moi, je t'ai dit,
en fait, c'est des qualités que tu espères toujours voir.
Oui, mais elles n'existent plus.
On les voit de moins en moins.
S'il fait une bonne saison, mais c'est pas mon
idée. Mais toute sa carrière,
il y a toujours un si.
Toute sa carrière se résume à des si. Alors oui, sur un tournoi, on sait
c'est que j'ai dit
la notion de tournoi est tellement toujours aléatoire que mais ça veut dire que franchement au moins 8 mois, il faudrait qu'il soit compétitif pour qu'ensuite sur un tournoi, tu dises bon OK, allez, c'est bon, on y va quoi.
Et encore que tu as toujours le avec lui dans la tête le fait que s'il pète entre les doigts, ça peut être aussi pendant le tournoi quand.
En plus,
Simonet, merci.
Bon. C'était un plaisir. Une petite chose pour terminer.
Oui.
Deux quotidiens sur trois, hier, ont donné les prix des meilleurs joueurs sur le terrain à Marco Verratti.
Tu l'as vu après le match.
Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport.
Qui? Ah, deux quotidiens, pardon.
Deux quotidiens sportifs sur trois en Italie.
Ah, c'est pas mal.
Les titres des meilleurs joueurs du match à Marco Verratti.
Bon, ce qui est le plus beau en ce moment en Italie, on est d'accord que c'est leur troisième maillot, là.
Ah, c'est affreux. L'Italie joue en vert, c'est
ouais, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça spécial aussi. Bah,
on va essayer de faire un sujet là-dessus dans la semaine.
Pour les clubs encore, j'ai déjà un peu de mal, mais pour les pays, ouais, mais bon.
Un peu tes conneries.
C'est vrai,
avale pas ces salades marketing, que l'Italie joue en vert comme ça, c'est affreux, quoi.
C'est inspiré de l'argent qui a Puma n'a pas fait avec la qualification ratée à la Coupe du Monde.
Ah, c'est la couleur du dollar.
Quelque chose de très très beau, mais qui ne marchera pas.
Mais en Italie, on a gueulé ou c'est passé ce maillot vert là?
Tout le monde a gueulé à partir de Mancini. Mancini qui dit moi, je suis traditionnel, ouais, j'aime les maillots à
tout. Ah, même Mancini, le sélectionneur.
Si même le sélectionneur rentre pas dans la stratégie marketing de l'équipementier en disant c'est pourri. C'est pas le maillot numéro 1,
rassurez-moi.
Oui, mais ça veut dire que tu joues pas avec ton maillot numéro 1 ou 2.
Même, t'as pas à jouer comme ça un match à domicile du qualif, un match officiel avec un maillot pourri.
Et surtout les matchs
de qualification.
Le maillot rouge.
On ne fait pas des bonnes choses.
La France a joué une fois avec un maillot rayé, vert et blanc. C'est parce que le meilleur, rappelez-vous de l'histoire.
Une fois le maillot rouge.
78. Mais rouge, historiquement, la France a souvent joué en rouge. Pas souvent.
La France, si. Jamais plus de deux fois.
Non, Daniel, la France, dans les années 50-60, a souvent joué en rouge.
Le maillot traditionnel de la France, c'est le bleu. Que Nike ait réussi à imposer des variations de couleurs, ben je trouve pas ça vraiment beaucoup mieux pour l'équipe de France. Mais il se trouve que les résultats des ventes ont toujours été excellents, malgré les variations. Marinière, bleu marine foncé, bleu marine plus clair.
Mais comme pour les clubs, on n'aime jamais vraiment au départ et puis ça se vend bien après. Quoi, donc c'est bizarre.
Au Brésil, quand tu varies de la couleur tradie, il y a des échecs en vente. On est plus attaché aux vraies couleurs. C'est pour ça que le contrat Nike au Brésil est devenu au fil du temps moins important, par exemple, que le contrat Nike en France. Parce qu'ils arrivent à plus s'amuser sur les maillots.
T'as moins de ventes additionnelles avec le...
Et les clients achètent. Mais il y a des pays ou des clubs qui sont plus tradis, qui finalement, pour les équipementiers, sont un peu plus chiants à gérer.
Ouais, ça reste traditionnel, donc t'as moins de renouvellement et t'as moins de...
Parce que les supporters, enfin les clients, on va dire, de ces clubs, les supporters de ces clubs-là, aiment pas ce genre de variation-là.
De ces pays-là.
Bon, Simonet, merci en tout cas.
Ou ciao. Il y a des clubs
C'est valable aussi pour les clubs là-bas.
Oui, bien sûr.
Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Je suis d'ailleurs que l'Allemagne...
Rien ne m'a surpris lorsque Daniel ne voulait pas qu'on joue en rouge en France.
Oui, d'ailleurs je suis d'ailleurs que...
Rien ne m'a surpris. Je dis c'était cousu de fil blanc. C'était cousu de fil blanc du côté de Dany le Bleu.
C'est marrant, Polo, j'avais pas fait le rapprochement.
Moi, si tu veux, tout de suite.
T'as remarqué qu'il n'est pas écolo non plus.
Dany le Bleu, c'est un peu exagéré.
C'est cousu de fil blanc,
beaucoup plus bleu que rouge, quoi qu'il en soit.
Bon, en tout cas, l'Allemagne joue dans un beau maillot blanc aujourd'hui. Ils n'ont pas tourné super maillot.
Mais l'Allemagne, pour que ce soit équilibré ce soir, Polo, on est d'accord, il fallait qu'il joue à 8, non?
Ouais, je pense que c'est ça, mais en fait, on peut rigoler comme ça, mais sauf qu'il y a 0-0 à la mi-temps.
Oui, la première mi-temps, ils n'étaient pas les fiers.
Hein. Bien sûr.
Non, mais en fait, j'en profite parce que Kevin est là et qu'il nous parle très très bien des Pays-Bas. L'histoire de cette nouvelle sélection allemande, elle est quand même un peu compliquée, parce que se retrouver à 10 contre 11 au bout d'un quart d'heure de jeu avec un joueur Emre Can qui a une histoire compliquée avec l'Allemagne, parce qu'il est parti, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Simonet sur Verratti, parce qu'en fait en Allemagne on ne sait plus trop qui est Emre Can aussi, quoi. Il est parti en première ligue, ensuite il est à la Juve, il joue plus à la Juve, etc. Donc, et il revient en équipe nationale alors qu'il avait fait un match catastrophique, notamment contre les Pays-Bas, en Ligue des Nations, en 2010. 2018, là, à l'époque où l'Allemagne se prend un 3-0 aux Pays-Bas. Il sort à l'heure de jeu, c'est catastrophique. Et là, on le relance. On a l'impression que c'est revenu pour lui. Il a peut-être sa chance pour les 23, pour l'Euro 2020. Et puis, il se fait expulser au bout d'un quart d'heure, quoi. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué, mais c'est à l'image de cette équipe allemande d'aujourd'hui, de cette jeune génération que je trouve personnellement extrêmement talentueuse, mais qui ne sait pas gérer un résultat, qui a pas encore assez de, qui est pas assez mûr, tout simplement, qui a presque plus de leader dans l'équipe d'ailleurs, à excepté Manuel Neuer, Toni Kroos qui était pas là, et puis on va dire Marco Reus, mais est-ce que Marco Reus est un vrai leader? Là, c'est une vraie question à mon avis, et Kimmich est encore un peu jeune. C'est vrai que bon, ok, ça fait 3-0 à la fin parce que Gundogan nous fait une fabuleuse rentrée, on l'avait pas vu à ce niveau-là depuis longtemps, 2 buts, une passe décisive. Ok, il y avait beaucoup de blessés, tout ce que vous voulez, il y avait 10-15 personnes qui n'étaient pas là, donc Gnabry quasiment, où on apprend l'information qu'il a une blessure musculaire, un petit problème musculaire juste avant, enfin on l'a appris à 18h, tout ça fait que quand même, ben, j'ai pas envie de dire que l'Allemagne sue, mais un petit peu, à chaque fois tu te demandes ce qui va arriver, quoi.
Vraiment une indécision. Non, mais quand tu joues contre des équipes un peu plus fortes, je comprends, mais là ce soir, bon.
Non, mais en première mi-temps, si tu veux, il y a 0-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas une domination. Ok, il y a une domination.
La possession de balle de l'Allemagne, ça se passe tout le temps près de la surface des Estoniens, quand même.
Oui, mais ok, mais ça, on l'a à 11 contre 11 aussi, on l'aurait vu. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces difficultés. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, qu'est-ce qui va arriver à l'équipe d'Allemagne? Il l'emporte, première journée de qualification pour l'Euro 2020. Il l'emporte aux Pays-Bas. On se dit, allez, c'est parti.
Ah, mais toi, Polo aussi, tu voudrais tout le temps que l'Allemagne, elle souffre jamais et gagne 3-0 tous les matchs. Excuse les adversaires d'exister quand même.
C'est son histoire, c'est comme ça. On écrase tout le monde, et puis après.
Et à la fin, on gagne.
Voilà, et à la fin, on gagne.
Oui,
voilà.
Bon.
Non, mais moi, je suis.
L'histoire, ça évolue, Polo.
Je sais, mais moi, je suis d'une génération quand même où on disait qu'une grande génération allemande a gagné, et une mauvaise, elle était en finale, quoi. Aujourd'hui, c'est un. J'adore cette phrase au passage.
Les choses ont le droit d'évoluer dans l'histoire, Polo.
Oui, mais dans le bon sens.
Dans le sens que tu veux, toi, surtout.
L'Allemagne est devenue médiocre comme les autres pays. C'est insupportable.
Ah, d'accord. Tu veux dire comme les Pays-Bas?
Bon, les Pays-Bas, c'est comme les croissants. On mange 3 au petit déjeuner.
Fais gaffe, parce que des fois, t'en prends 3 aussi.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Mais quoi, des croissants?
Mais c'est les pourboires. C'est les pourboires.
Mais tu sais, Kevin n'est pas encore. Il est nouveau, il ne te connaissait pas. Il n'a pas encore pris bien la mesure, tu vois, du mépris du foot allemand pour les Pays-Bas. Il faudrait que tu lui expliques et un petit peu.
À mon avis, c'est plus dans l'inverse. Déjà, c'est dans l'inverse, souvent. L'histoire des Pays-Bas.
Ah, tu veux dire que les Pays-Bas méprisent les Allemands, mais qu'après, ils ont le retour de la claque?
C'est un peu ça. Ça arrive un peu souvent, quand même. Mais, de toute façon, les Pays-Bas méprisent beaucoup de personnes, au passage, footballistiquement parlant. mais c'est vrai que cette équipe, elle c'est toujours un peu compliqué, en fait, cette équipe d'Allemagne
en
ce moment.
Comme ils disent, Trost, ils sont fiers.
Oui, ça très. Mais c'est intéressant de voir comment elle va évoluer. Je sais pas du tout. Alors, évidemment, le calendrier fait qu'il n'y a pas beaucoup de malchance, entre guillemets, qu'elle n'aille pas à l'Euro 2020. Mais pour faire quoi? C'est-à-dire, je sais pas si c'est une équipe de transition qui va juste aller là-bas pour apprendre.
Pour faire figure de prétendant comme les autres, quoi.
Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas trop. Mais le problème, c'est que si vous me demandez aujourd'hui quel est le 11 titulaire, je ne suis incapable de le dire. On voit qu'il y a des tendances. Évidemment, Manuel Neuer dans les buts, ça a été choisi. Il y a Zulu en défense centrale. Mais sur les latéraux, on sait pas exactement. Klostermann, c'est pas terrible. Le positionnement de Kimmich, on sait pas ce que c'est. Gundogan revient. Toni Kroos n'est pas là. Kai Havertz, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que Marco Reus est titulaire indiscutable? Est-ce qu'on met Gnabry? Timo Werner, il joue bien 6 mois, puis 6 mois après, c'est pas terrible. Tout ça fait que, on sait pas trop, en fait, ce que ça va donner. Alors, ça peut donner des bonnes choses, évidemment, parce qu'on le sait bien. On peut très bien se trouver une équipe pendant un tournoi. Mais, ce qui serait d'ailleurs l'inverse complet de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2018. Mais honnêtement, je suis à la fois optimiste pour les prochaines années. N'oublions pas aussi que les U21 ont été finalistes cet été, battus par l'Espagne, mais qu'ils avaient gagné contre l'Espagne aussi le titre en 2017. Donc il y a le réservoir est là, c'est pas une question. En plus, ils jouent bien au football, c'est pas à ce niveau-là. Mais c'est surtout qu'ils arrivent pas à gérer le résultat. Ce qui s'est passé aussi contre l'Argentine, ne l'oublions pas, où j'ai rarement vu l'Argentine se faire dominer de cette façon quand même. On parle pas de n'importe quel pays au football. Et à la fin, tu t'as 2-2 et tu sais toujours pas pourquoi. Donc c'est un peu compliqué très très optimiste pour cette Allemagne 2020. Ouais. Mais je pense en tout cas que le groupe est là, c'est-à-dire que le potentiel est là.
Et si le sélectionneur, il fait débat en ce moment ou pas trop ?
Il a beaucoup fait débat lors de la Coupe du Monde fabuleuse en Russie. Évidemment, c'était extraordinaire parce que ça a été un peu mis sous le tapis, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a eu je te dis ça de mémoire, il y a eu sur Kicker qui a décidé de demander un peu l'avis de tous ses abonnés et tous ceux qui voulaient voter. Et en fait, 75% des personnes voulaient qu'il parte.
Ah, quand même, 75%, c'est pas rien.
Oui, c'est pas neutre. Mais de toute façon, Yogi Löw ne parle plus qu'au Bobo et à Daniel Riolo, ne l'oublions pas.
Merci de pas m'associer à ce gros plat, s'il te plaît. Et toi, et je te signale que tu as quand même fait partie longtemps de ses admirateurs.
Au début, mais après, on apprend les petites histoires.
Non, si tu me les dis pas, les petites histoires, comment veux-tu que je te suive, moi?
Par exemple, c'est pareil, c'est fabuleux ce qui s'est passé l'après Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire que l'équipe d'Allemagne rentre en Allemagne, et rentre évidemment au pays. Yogi Löw prend la responsabilité de la déroute, évidemment, en Russie. Et puis, il fait une petite déclaration et il se barre pendant une semaine, quoi. Et donc, t'as le peuple allemand, il dit tout ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il dit rien. Il prend quelques jours pour réfléchir et ceci, cela. C'est-à-dire qu'il assume jamais ce qu'il fait. Il a un côté aussi un peu élitiste, si tu veux. Non, je ne parle qu'aux dirigeants, je ne parle qu'aux chefs d'entreprise, un peu comme Thomas Tuchel d'ailleurs. Je ne parle qu'à des personnes qui sont responsables et qui ont le pouvoir décisionnel et pas aux petits gens, quoi.
Oui, non, mais ça, moi, après l'échec de la dernière Coupe du Monde, je pense que, étant donné la durée de son mandat, oui, il aurait pu partir à ce moment-là. Ça, oui, ça, mais là-dessus, je te rejoins.
Mais c'est pour ça, c'est à la fois intéressant, mais le parce que c'est vrai, enfin, tu m'avais chambré un petit peu la dernière fois en disant qu'il avait ramené le titre en 2014, mais il a aussi à son palmarès à la Coupe du Monde 2018, c'est quand même historique.
Oui, non, mais c'est pour ça qu'il fallait à ce moment-là peut-être passer à autre chose. Oui.
Donc, et beaucoup de personnes, par exemple, ont commencé quand la Ligue des Nations n'a pas fonctionné en 2018 et que l'Allemagne a fini dernière avec la France et dans le groupe des Pays-Bas et de la France. Beaucoup de personnes se sont dit, c'est peut-être le moment que Ralf Rangnick reprenne la sélection. Tout simplement. Et voilà, alors on n'en parle pas trop, ça reste parce que c'est compliqué. Il y a Birov d'un côté, il y a Joachim Löw, c'est un état dans l'état. La fédération va pas bien du tout, donc c'est pour ça aussi qu'on a changé de président. Il y a toujours un peu les restes de la Coupe du Monde 2006 qui sont là, donc tout ça c'est un peu compliqué. T'as beaucoup de jeunes. Les anciens ont été mis de côté ou se sont mis d'eux-mêmes de côté, je pense à Mesut Özil ou Mario Gomez, etc. Et donc t'as une nouvelle hiérarchie et on a l'impression que t'as une page blanche et tu recommences. Elle est talentueuse encore une fois, qu'est-ce que ça va donner à l'Euro 2020?
On va avoir un Euro quand même qui va être super ouvert.
Ouais, je pense que ça va être très ouvert, oui.
L'Italie revient, l'Allemagne, l'Apollo, la photo que tu nous fais, c'est quand même pas très, comment dirais-je,
ça reste
très positif.
Ça reste très compétitif.
Les Anglais seront là, France.
L'Espagne, le Portugal, France.
C'est peut-être là, c'est peut-être
la Belgique,
ça la grande nouvelle.
C'est l'Angleterre, peut-être. Les Pays-Bas.
Qui sera le favori numéro 1? La France? Championne du monde?
Les Anglais, peut-être. Pour la première fois, peut-être.
Oh, non.
Les Anglais, c'est pas mal.
Oui, non, c'est bien, mais tous ceux qu'on a cités, c'est bien comme les Anglais, j'ai envie de dire.
Ouais, ils souhaitent même à bosser avec les jeunes, quoi. C'est quand même formidable, quoi.
Ah ouais. Reste plus qu'à ça fait quelques temps qu'ils bossent bien avec les jeunes. Vlach Polo dit bien les Anglais, on aura tout entendu ce soir. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de gegenpressing ce soir.
Non, c'était pas terrible. Par contre, si tu me laisses 10 secondes, l'Autriche a fait un super résultat.
Il se rattrape avec l'Autriche, le petit gars.
Ouais, non, mais juste, voilà, juste 10 secondes, ils ont fait un super résultat. C'était une petite finale dans le groupe avec la Pologne. Et là, ils l'ont emporté en Slovénie, je dis pas de bêtises, attends, j'ai un trou de mémoire. Slovénie ou Slovaquie?
Slovénie.
Bah, Slovénie, je dis pas de bêtises. En plus, j'ai vu le match, donc c'est un peu dommage. Et la victoire 1-0 fait que l'Autriche a de grandes chances d'aller à l'Euro 2020. Ce n'est pas la même chose pour la Suisse.
La Pologne est qualifiée, si je dis pas de bêtises,
oui,
là.
Exactement.
Voilà, la Pologne est qualifiée, ils ont gagné 2-0. Donc la Pologne est officiellement qualifiée ce soir pour l'Euro. L'Autriche, ils vont y avec les Autrichiens, là.
Second
ils ont 5 points là-bas sur la Macédoine.
Mais ils étaient partis avec deux défaites d'entrée. En plus, le groupe fonctionnait pas bien, etc. Ils jouent pas à 100%, je trouve un petit peu comme les Allemands. J'aimerais vraiment voir cette équipe autrichienne à l'Euro 2020.
Oui, foot autrichien qui progresse, foot de club qui progresse.
C'est à fond de demander à Polo, c'est ça.
Ouais, alors c'est un peu plus compliqué. C'est ce qui est, si tu veux, historiquement parlant, les Autrichiens étaient plutôt des individualistes. Et comme ils étaient en Bundesliga, si tu veux, lorsqu'on arrivait à agglomérer tout ça, ça faisait des équipes assez compétitives. Là, c'est un peu la galaxie Red Bull qui a pris le pouvoir en Autriche, alors qu'à l'inverse, les clubs comme le Rapid et l'Austria ont beaucoup plus de problèmes. Et si tu veux, l'équipe d'Autriche aujourd'hui, t'as la moitié, voire les deux tiers des joueurs joueurs qui sont passés par la galaxie Red Bull, donc soit Salzbourg, soit Leipzig, etc. Et donc, ouais. Bah, les gars, ils se connaissent, quoi. Et voilà. Mais par contre, ils sont pas encore à 100%, et c'est vraiment dommage parce que il y a quelque chose à faire.
Je prochain match, Autriche-Macédoine. Donc, ça veut dire que tu fais un nul, ça y est, t'es qualifié, quoi.
Ouais, c'est ça, je crois. Il y a 5 points d'avance, je crois, si je me rappelle.
Ouais, mais ils ont failli avoir deux clubs en Ligue des Champions, parce que Linz, ouais. entraîné par. Ouais.
Bah, Valérien Ismaël.
Valérien Ismaël.
C'est Oliver Glasner, l'actuel ouais. coach de Wolfsburg, qui avait fait tout le boulot.
Ah, tu veux dire qu'Ismaël n'a rien foutu?
Mais non, j'ai vu les matchs. Ouais, c'est pas non plus la Ligue des Champions. Écoute, je vois les matchs, c'est pas. Voilà, quoi, tu vois.
Très bien.
C'est un peu mieux que la L1, mais c'est tout.
Polo, merci beaucoup.
Merci.
T'es en train de dire que Jean-Pierre d'Autriche, c'est mieux que la Ligue 1, là. Un c'est ce que t'as dit.
Légèrement. Ben, je rigole, là, ça va rigoler un peu haut.
Non, mais il y a des jours où on rigole.
Franchement.
Le bas de classement de la L1.
Il faudrait prouver que si t'enlèves le PSG derrière les équipes françaises contre les autres. L'écart va pas être énorme.
Hein. Ça crois.
L'écart sera pas énorme. Je te garantis que l'écart sera pas énorme.
Bon, écoute.
Sacrée installation dans les clubs.
Toujours compliqué de
exactement.
À comparer.
Ah, okay.
Ah, Kevin a visité les installations.
Et t'es allé en Autriche visiter les installations, toi.
Et qu'il y a des camps de stage là-bas aussi en Autriche.
C'est vrai.
Bon, là, c'est pour l'été. Pour
Salut Polo, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Get the brands you love at littlewoods.com. Cozy up this autumn for family movie nights. Get the Samsung 43-inch Ultra HD 4K smart TV with HDR for an unmissable $429. All with inclusive delivery and free returns. Hurry, offer ends Thursday the 24th of October. Own it at littlewoods.com.